Et à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saye pour vous accompagner sur les ondes de Canal M en ce 29 août 2017. Je ne serai pas toute seule, ni d'ailleurs de l'autre côté de la vitrine. Il y a comme toujours mon ami Jean-Sébastien La Liberté, fidèle au rendez-vous, pour m'appuyer à la technique et au choix musical. Alors aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur, parce qu'à chaque fois c'est vraiment une joie, de retrouver Frédéric Palardy, directeur des Impatients. Le sujet du jour, les activités et les événements à venir cet automne. Ensuite, je vais m'entretenir avec Nicole Chartrand, la directrice générale de ce qu'on appelle directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, au sujet de, bien, idem là encore, le dévoilement de la programmation automnale des sports pour les personnes aveugles. Julien Racicot, vous le savez, on s'est déjà parlé il y a quelques semaines, il est le fondateur et le directeur général de la fondation Adapte-toi. Et vous savez qu'en ce moment, il est en train de faire sa grande traversée qui s'appelle le courage d'avancer. Il est parti de Gaspé pour rejoindre la ville de Québec. On va le retrouver aujourd'hui, donc en direct, quelque part sur la route. J'espère que la communication sera bonne avec Julien pour savoir comment se passe cette traversée, le courage d'avancer. Et puis enfin, Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaire et qui siège au comité sur les soins de fin de vie, viendra nous parler de cette loi sur les soins de vie et plus précisément des directives médicales anticipées. Mais d'abord, quelques nouvelles, bien sûr, pour commencer cette émission. Dans Le Devoir, Hélène Buzetti signe un papier sur le remaniement ministériel d'hier, qui a été l'occasion pour le Premier ministre d'ajouter deux nouveaux visages à son équipe. Ainsi, le député ternevien et ami personnel de M. Trudeau, Seamus O'Regan, de même que la députée néo-brunswickoise Ginette Petitpas-Taylor, accède pour la première fois au Conseil des ministres. Mme Petitpas-Taylor, qui a été élue à la Chambre des communes pour la première fois en 2015 et qui a été députée d'arrière-ban, entre par la grande porte. Pas de petit ministère de transition pour elle, elle devient ministre de la Santé en remplacement de Jane Philpott. Cette dernière prend la responsabilité du dossier autochtone avec Caroline Bennett. Seamus O'Regan atterrit pour sa part aux anciens combattants, jusque-là sous la main de Kent Hare. M. O'Regan, un ancien journaliste au réseau CTV, avait fait les manchettes à la fin de 2015 lorsqu'il avait annoncé qu'il se retirait dans un centre de santé pour régler ses problèmes de consommation d'alcool. Au rayon des promotions, on trouve aussi Carla Qualtro, que nous connaissons bien ici, une ancienne nageuse paralympique médaillée, elle qui s'occupait jusqu'à présent du ministère mineur des sports et des personnes handicapées, prend la relève de Judy Foot au gigantesque ministère des services publics et de l'approvisionnement. Elle aura notamment pour responsabilité de régler les problèmes persistants du service de paix des fonctionnaires fédéraux. Et M. Kent Hare, lui, qui se déplace en fauteuil roulant, va la remplacer, donc au ministère dit mineur des sports et des personnes handicapées. On aime beaucoup ça. Avec ce remaniement, le cabinet compte désormais 31 membres, en incluant le Premier ministre, soit un de plus que la version précédente. La parité est en quelque sorte préservée, puisqu'on retrouve 15 ministres féminins et 15 masculins, pardon, auxquels s'ajoute M. Trudeau. Québec coupe son aide parce qu'il étudie. Il est tétraplégique et il perd sa subvention parce qu'il a choisi d'aller à l'école plutôt que de rester chez lui. Olivier Gingras, 21 ans, a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes en 2003 après avoir plongé dans un lac peu profond. Paralysé des quatre membres, donc, il doit porter des couches et il a besoin d'une aide constante. Depuis son accident, il reçoit de l'aide de Québec parce qu'il a de sévères contraintes à l'emploi. On lui paie notamment des couches et du matériel médical. Cependant, Puisqu'il a toute sa tête et qu'il souhaite apporter sa contribution à la société, il a décidé de s'inscrire au Cégep en septembre 2016. Eh bien, Québec lui réclame maintenant plus de 7 000 $ qu'il a touchés en vertu du programme de solidarité sociale depuis qu'il fréquente le collège. Les représentants du ministère nous ont dit que s'il voulait continuer d'obtenir ses services, il ne pouvait s'inscrire à plus d'un cours à la fois. Je n'en reviens pas qu'on le pénalise parce qu'il tente de faire quelque chose de sa vie plutôt que de rester à la maison. À s'apitoyer sur son sort, s'insurge Caroline Morin, la mère d'Olivier Gingras. « On vit une histoire d'horreur, dit encore Madame Morin. Ça a été difficile lorsqu'il a eu son accident, mais là c'est encore pire. Il a maigri beaucoup depuis 2 mois, il fait des plaies. Même lorsqu'il était aux soins intensifs, Olivier Gingras a continué à étudier. Il a fait ses mathématiques fortes et encore aujourd'hui, malgré son handicap, il réussit mieux que la moyenne des étudiants et souhaite devenir informaticien. Pendant tout son secondaire, on l'aura compris, il avait reçu de l'aide financière, mais il ne peut plus en avoir et il n'aurait pas dû en recevoir au Cégep. La totalité des profits sera versée à l'aide et au soutien aux enfants handicapés. On parle d'un gala d'humour au profit de la Fondation Fusée, écrit Marie-Josée Montminy dans lapresse.ca. Pour les personnes intéressées, un forfait VIP inclut par ailleurs un cocktail, un souper, un encan silencieux, une rencontre avec les artistes. Le président de la Fondation Fusée, Danny Giroux, tient à remercier tous les partenaires, dont Steve Charbonneau, ancien joueur de football des Alouettes de Montréal, et son équipe. Nos nouveaux partenaires, dont la Fondation Intervalle et la Classique Internationale de Canot de la Mauricie, avec qui nous souhaitons mettre un sourire dans le visage du plus grand nombre d'enfants handicapés. La Fondation Fusée et la Classique Internationale de Canot de la Mauricie organiseront le 2 septembre prochain une nouvelle activité à laquelle pourront participer une 20aine d'enfants handicapés. Ces jeunes auront l'occasion de vivre une expérience de ski nautique adaptée à la place des canotiers sur la promenade du Saint-Maurice à Shawinigan. Quant aux billets pour le gala de l'humour, ils se vendent au coût de 65 $. Ils sont disponibles à la billetterie de culture Shawinigan, partenaire de la soirée. Et puis enfin, sur le site handicap.fr, Aimé Le Goff écrit qu'au Canada, la recherche technologique au service du handicap visuel a fait de grands pas. Les constructeurs du dispositif eSight, lancé en Europe le 21 juin 2017, souhaitent le prouver. Ce nouvel appareil, qui pèse environ 100 grammes, se porte devant les yeux, au-dessus des lunettes de vue. Il comporte une caméra d'une résolution de 21,5 mégapixels pour filmer l'environnement. Concrètement, ce qu'elle capture est retransmis directement sur 2 écrans OLED, un devant chaque œil, afin de garantir une qualité d'image et une latence optimale, affirment ses concepteurs. Une technique similaire à celle des casques de réalité virtuelle, elle-même dérivée de celle des smartphones. Cette innovation a fait écho à d'autres dispositifs, peut-être moins coûteux quand même, parce que le coût s'élève pour le moment en euros à 14 000 €, donc à peu près 20 000 $, un prix qui pourrait être diminué selon l'éventuelle concurrence à venir. Il s'appelle Frédéric Ballardy et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu l'occasion de le rencontrer, et même à plusieurs reprises tout au long de cet été. Si vous aviez raté ses précédentes participations à notre émission, Frédéric Ballardy est le directeur des Impatients. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clotilde, merci de l'invitation encore une fois.
Mais c'est franchement très, très partagé. J'ai vraiment beaucoup de plaisir d'une part à vous recevoir et à parler des Impatients et à tout ce que vous faites. C'est quand même assez remarquable. Pour, évidemment, les gens, vous savez, on part du principe que ce ne sont pas forcément toujours les mêmes qui nous écoutent à tous les jours. Juste de nous rappeler brièvement ce que c'est que les Impatients. Et puis ensuite, on va parler de la programmation d'automne.
D'accord. Donc, en gros et très rapidement, ce qu'on fait aux Impatients, c'est qu'on offre des ateliers de création artistique à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, des ateliers qui sont dédiés à l'art, à la création, que ce soit le dessin, la bande dessinée, la musique, même la danse, donc tout ce qui est créatif.
Mm-hmm. À un moment donné, est-ce que c'est encore vrai, mais Clémence Desrochers était associée, non, aux impatients?
Ah oui, Clémence Desrochers est encore associée.
Est encore associée, hein, Clémence. Hein,
Clémence est la marraine des impatients, comme on aime bien l'appeler.
Okay.
Elle a été porte-parole des impatients. Elle est encore porte-parole des impatients depuis plus de 20 ans maintenant.
Plus de 20 ans maintenant. Hein.
Oui.
Ben, Clémence, qui fait des belles choses, d'ailleurs, en dessin.
Ah là, oui, très, très belles choses.
Qui fait des choses très intéressantes.
Qui écrit aussi. Hein.
Qui, oui, ah,
qui
oui
écrit...
c'est vrai.
Bon, ah oui, qui écrit.
Oui, elle écrit bien, elle écrit bien, Clémence.
Ouais.
Ben, j'imagine que maintenant qu'elle est à la retraite, c'est peut-être ce qu'elle va faire aussi. En tout cas, j'espère qu'elle va nous en sortir.
Mais elle est encore en pleine forme.
Oui, je sais. Ouais. Puis elle joue au golf, tout. Elle ira pas. Oui, elle va bien, notre Clémence.
Elle va très bien.
Alors, Monsieur Palardy, les activités d'automne aux impatients.
Bon, on en a beaucoup. On a beaucoup aussi en prévision de l'année qui s'en vient.
Mm-hmm.
Peut-être commencer par ce qui existe en ce moment.
Déjà,
donc, sur les lieux des impatients, donc à la Galerie des impatients, au Centre Sherbrooke-Est, il y a l'exposition qui se termine au début octobre. J'ai le goût de vous parler, qui est une exposition du 25e anniversaire, donc une espèce de rétrospective qui se décrit très mal à la radio parce qu'on en avait parlé. C'est une exposition de titres d'œuvres, mais qui, je pense, vaut vraiment la peine d'aller visiter. Donc, il vous reste un mois pour la voir.
Oui, des titres très, très, très éloquents, ma foi, puis qui certains qui font sourire, d'autres qui procurent un serment au cœur. Hein.
Oui, qui font sourire, qui font réfléchir.
Qui font réfléchir, qui font... oui, absolument.
Et qui amènent une couleur à l'œuvre.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est encore, donc, vous avez dit, jusqu'au mois d'octobre.
Oui, début octobre.
D'accord.
Immédiatement après ça, on aura une exposition, notre exposition d'automne, avec Yannick Pouliot et Maxime Galland. Yannick Pouliot, qui est un artiste très bien connu dans le milieu de l'art public, et Maxime Galland, qui fait de l'art sonore. Donc, ils ont fait des ateliers en collaboration
en
avec
collaboration.
Des impatients.
Okay.
Donc, ils sont allés tout l'été, ils ont participé à des ateliers, ils ont recueilli des sons. On le sait pas encore, ça sera une surprise pour tout le monde, qu'est-ce que ça va donner, mais on le sait déjà que ça va être magnifique.
OK, et donc ça, c'est à partir de quand?
À partir du tout de suite après, donc je vous dirais aux environs, la date n'est pas déterminée.
Début novembre,
même avant mi-octobre.
Mi-octobre.
Il faut savoir que tout ce que je vais dire se retrouve sur le site, peut-être
oui,
le dire
oui,
tout de suite,
oui,
là, quand les dates vont être précises, donc impatient.ca.
Facile à trouver.
Impatient avec un S.
D'accord.
Oui. Ensuite, on travaille sur le lancement du coffret, le 10e coffret « 1000 mots d'amour ». On a 9 coffrets qui ont été faits. J'en ai une copie ici. Là.
Oh, wow.
9 éditions. C'est la 10e édition qui est une édition particulière de, si on peut appeler ça ici, les best-of ou les moments marquants. Qui ont fait le succès des 9 dernières éditions.
C'est tellement beau.
Avec un rajout de nouveautés, de nouvelles vedettes, de nouvelles personnalités.
Ah.
Toujours en collaboration avec les impatients. Donc, il y a des lettres des impatients dans ces coffrets ou des illustrations des impatients.
Oui.
Et qui font participer tous les ateliers. Ça, c'est très important.
Christian Bobin, là, je vois,
entre autres.
Qu'on aime beaucoup pour sa plume et qui a écrit « L'amour est le sentiment de la plénitude du réel. Avoir par instant parfaitement conscience de la vie qui est, dans son fond, incompréhensible, arrache nos jours à la mort, nous rend plus proches, soudain, de la grande délicatesse qui est devant nous, qui nous attend et parfois nous irradie. »
Voilà. Ça fait partie des lettres qui seront dans le 10e coffret. Et on a une campagne de socio-financement qui n'en est pas tout à fait une, mais que je trouve plutôt intéressante. C'est que des gens peuvent donner pour 50$.
Oui.
Vous pouvez mettre le nom. Il y aura une page dédiée à des gens que vous aimez. Et c'est pas le nom de la personne qui donne,
non.
Mais le nom des gens que vous aimez
qui se retrouvera
dans le... Donc, vous pouvez faire inscrire le nom de votre fille, de votre femme, votre maîtresse, n'importe qui. Tout est permis.
Et permettez-moi, là, puisqu'on en parlait tantôt de Clémence Desrochers, et pendant que vous parlez, évidemment, ce n'est pas parce que ce que vous dites ne m'intéresse pas, mais c'est parce que comme j'ai la chance d'avoir ce coffret comme ça dans la main, François Ducas, qui doit être un impatient, c'est ça, qui dit « Ma chère amie Clémence Desrochers, vous remercie de votre présence aux impatients. depuis des années à tous les vernissages de « Parlez-moi d'amour, je vous remercie de votre respect », etc., etc. Et c'est écrit hein, avec une écriture évidemment un petit peu enfantine, oui, un petit peu désordonnée, oui, mais tellement riche et tellement... En tout cas, c'est très, très touchant que ce, oui, c'est ce coffret. Beau,
c'est très touchant. On a une magnifique anecdote sur ces coffrets-là.
Oui.
Je me souviens plus lequel, mais il y a une description. Donc, il faut comprendre que ce sont toutes des lettres des feuilles non des
c'est
lettres
anonyme
libres.
Au départ libre non, ah oui non c'est ça dire, le, c'est d'accord ça, oui oui
des feuilles libres
oui oui c'est et ça exactement
il y a eu une distribution qui s'est faite dans le métro il y a quelques années à Montréal
ah oui
et donc de lettres d'amour
ah, oui
à des passants à des kidam en fait
oui.
Et des gens du service du métro nous ont dit c'est la première fois qu'ils n'en retrouvaient aucune par terre
ah.
Vous savez, quand on distribue
ah, oui,
des trucs
oui,
dans le métro,
oui.
Aucune.
Mais oui. Ah, oh, mon Dieu, ça me...
Donc, ça
j'ai
démontre,
le frisson.
Oui. Donc, ça démontre l'impact.
L'impact.
Alors, ça va sortir.
D'accord.
J'y vais rapidement, là,
alors,
parce
okay.
que... Ensuite, il y aura un lancement de la publication 25e anniversaire.
Oui.
Ensuite, on a une collaboration avec les Canadiens de Montréal.
Oui, oui.
On va faire des casques de hockey. Peint par des artistes professionnels
non.
et des impatients. Donc ça aussi, ça s'en vient pour
ah,
l'année
c'est
prochaine.
Génial.
Ah oui, ça sera...
Ça, c'est fantastique.
Ça sera un événement
oui,
majeur.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a également? En décembre, on aura un spectacle fait par un humoriste très, très connu, dédié aux impatients. Et il ne faut pas oublier le développement primordial qui sont les ateliers.
Oui.
Nous avons 11 sites présentement. Et à la fin de l'automne, on en aura 14. Donc, nous sommes en développement à Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, Shawinigan, j'en oublie un, Repentigny.
Repentigny.
Et un de plus sur la rive sud. Donc, on
wow.
grandit, on va où les besoins sont. Parce que c'est la base des
bien
impatients,
sûr,
c'est
bien
les ateliers.
Bien sûr, bien sûr.
C'est le service aux,
bien sûr.
Aux gens.
Alors... Allez-y, vivez cette aventure-là visuelle. Allez voir ce que créent tous ces gens entourés comme ils le sont par votre équipe, mm-hmm. Frédéric Balardi. Merci infiniment. C'était notre dernière aujourd'hui.
Je crois que oui.
Oh, mais vous allez
on
revenir à l'automne
pour, oui, hein,
pour les paractualités. Oui, 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 bien
oui,
sûr,
pour,
vous serez invité.
Vous lancer des trucs là, quand ça sera le temps.
Exactement. Merci infiniment. Bravo encore pour tout ce que vous faites pour ces gens. C'est vraiment fantastique. Je vous dis, à chaque fois que je vous rencontre, j'en ai le frisson. Allez, un petit peu de musique juste avant de retrouver Nathalie Chartrand.
Un grand merci
sport.
À vous.
Au revoir. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Say. C'est l'émission, le magazine, devrais-je dire, Aime l'été qui se poursuit. J'ai gardé avec moi Frédéric Balardi parce que vous m'avez dit un truc hors d'onde. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'ai dit, il faut que les gens le sachent.
Alors, oui, donc, dans le cadre du lancement du 10e coffret, oui. Je reviens au coffret de 1000 mots d'amour. Comme je disais, ce sont des feuilles mobiles.
Oui.
Et il y aura une campagne de offrir l'amour à ceux qui attendent.
Oui.
Donc, on essaie de vendre les coffrets dans les salles d'attente, que ce soit le médecin, le dentiste, même ici, à la limite, dans des stations de radio, un peu partout où les gens attendent. Et les propriétaires du site vont acheter des coffrets et pourra donner à chaque personne qui attend une lettre d'amour. Qu'elle pourra rapporter chez elle.
Frédéric, c'est tout à fait magnifique et je vous remercie beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci d'être resté avec nous.
Un grand merci.
Alors, tout de suite, on va parler de sport avec Nathalie Chartrand, directrice générale de l'ASAC, l'Association sportive des aveugles du Québec. Bonjour Nathalie.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va? Comment se passe cet été? Vous avez bougé beaucoup, hein?
Oui.
Pas ah mal.
Ben, c'est ce qu'il faut, hein. Ça ne dure pas longtemps, fait que faut
ben
en
oui.
profiter pendant qu'elle est là.
Ben oui, c'est ça, exactement. Mais alors, on voulait aujourd'hui vous parler parce que, comme toujours, l'Association sportive des aveugles du Québec offre toujours beaucoup de choses, une programmation très chargée. Alors, et on avait envie que vous nous en parliez de cette programmation automnale.
C'est bon. Je vais commencer avec notre événement populaire ou populiste, là, je ne sais plus comment le dire. Ça sera la 5e édition de la Course Lumière qui
D'accord.
aura lieu le 9 septembre
oui.
à 20h au Parc Maisonneuve.
C'est de quoi s'agit-il? Course, oui, c'est ça, d'accord.
C'est une course à pied. On organise le tout avec le Mountain Equipment Co-op, le MEC.
Oui.
Et les gens peuvent faire un 5, un 10 ou un 15 kilomètres à la noirceur.
À la noirceur, c'est-à-dire avec un bandeau sur les yeux?
Non. À la noirceur parce qu'on débute à 20h et le 9 septembre à 20h, il fait noir.
Ah! OK, moi je pensais... C'est parce qu'on a eu des gens qui faisaient ça, c'est pour ça. Et alors, donc, je pensais... OK, d'accord. Alors, pardonnez-moi. Pardonnez-moi.
Non. C'est bon.
Ça vous fait rire, en tout cas.
Mais ils n'auront pas besoin de bandeau, il fait noir.
Non, c'est
Mais
ça.
Ils vont quand même pouvoir voir les pancartes avec mm-hmm. les mini-lumières pour leur
oui.
indiquer les directions à prendre. Le but de tout ça, c'est vraiment de sensibiliser les gens au potentiel que les personnes handicapées visuelles ont, de pouvoir faire plein de choses.
Ben oui.
Et en même temps, c'est comme une levée de fonds pour nous.
Mm-hmm.
Fait que nos deux objectifs, c'est d'avoir 650 coureurs.
Ouf, quand même.
Quand même. Mm-hmm. Là, on est proche. L'année passée, les autres années, on était pas mal... Il en
oui.
manquait quelques-uns pour
ouais.
avoir 650, mais,
bon.
Mais là, c'est mélangé. Là. C'est,
oui, oui,
c'est
oui,
pas
oui,
650
sûr.
Personnes handicapées visuelles. Là.
Non, je comprends. Mais là, donc, on peut encore s'inscrire, évidemment.
Oui. Et puis le deuxième objectif, c'est d'amasser 8 500. On est rendu à 5 355 exactement.
Bon, et on peut s'inscrire jusque quand? Jusqu'au 9, non?
Ben en fait, pour les voyants, là, ils peuvent la journée même,
la
ils
journée
viennent
même.
au Parc Maisonneuve et ils peuvent s'inscrire directement.
D'accord.
C'est 15 si on s'inscrit,
mm-hmm.
Mais je crois que c'est 20 ou 25 la journée même. Et
okay.
c'est en liquide seulement. Puis pour faire des dons, ben ça, vous pouvez aller sur notre site en tout temps au www.sparsaveugle.qc.ca, faire un don.
Oui, vous avez raison.
Faire le don en ligne.
Vous avez raison de faire la liaison parce qu'effectivement, sport est au pluriel et aveugle aussi. Voilà.
Oui, j'essaye, là. Il y a plusieurs sports, il y a plusieurs personnes aveugles.
Ben voilà, exactement. Exactement. Donc ça, c'est pour le 9 septembre. Alors,
oui.
quoi d'autre?
Et quoi d'autre? Ensuite, c'est la programmation du sport pour moi à Montréal et à Québec qui débute. Fait que, si on débute avec Montréal, parce que ça commence le 16 et le 17 septembre, c'est pour le programme du sport pour moi, c'est pour les jeunes ayant un handicap visuel âgés entre 6 et 14 ans
mm-hmm.
qui peuvent s'inscrire soit au volet initiation. Et le volet initiation, cette année, ça commence par l'athlétisme. Il va y avoir le goalball et le soccer ou le cécifoot.
Mm-hmm.
Et pour le volet perfectionnement, ce sera la natation.
D'accord.
C'est ça. Puis le 17 aussi, qui n'est pas nécessairement dans le programme du sport pour moi, c'est le mini goalball.
Ah oui? Que,
oui, les jeunes qui veulent participer au c'est, mini goalball.
C'est nouveau ça, hein?
Oui.
Je pense, non? Oui,
oui, oui, c'est nouveau. Puis que ce soit pour du sport pour moi ou pour le mini goalball, les frères et les sœurs voyants ou les amis oui. là, peuvent s'inscrire.
Ah, OK.
Également. Oui.
Ah, c'est chouette. Donc, c'est vraiment une activité pour tous.
Oui. Bien, en fait, c'est que souvent, le jeune ou la jeune qui a un handicap visuel, bien, des fois, des frères et des sœurs. Puis là, les parents disent, bien oui, mais mes autres, ils ne peuvent pas le faire. Fait que là, on a décidé qu'on ouvrait un peu à tout le monde. Puis en même temps, ça fait plus familial
ben
aussi.
Oui, puis c'est génial pour l'inclusion.
Oui. Oui, hein? Oui, oui.
Parce que ça, c'est ce que j'entends de plus en plus souvent, hein, des gens qui disent, qui sont dans votre domaine ou dans d'autres et qui disent, nous, on a hâte du jour où on ne parlera plus de formation pour les personnes handicapées visuelles ou pour les personnes ceci ou cela, mais voilà, ouverte à tout le monde, quoi. On a
oui,
très hâte à ça.
C'est ouverte à tout le monde parce que c'est nous qui le faisons.
Voilà, exactement.
Mais je ne suis pas sûre que
les
trucs de la ville...
Non,
en tout cas,
on verra, on verra.
On espère, hein?
Oui.
La vie est faite d'espoir.
Avez-vous d'autres bonnes nouvelles pour nous,
oui,
Nathalie?
Oui, ben, à Québec, ça va débuter le 23.
Mm-hmm.
Et eux, c'est pas tout à fait les mêmes sports. C'est, ben, presque. Ça va être le goalball, le soccer et la natation.
D'accord.
Pour les gens de Québec. Fait que c'est... Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, de notre temps d'organiser.
Oui, ben oui j'imagine. Hein?
Juste ça, oui.
J'imagine. Bon,
oui.
Alors ça, c'est pour la ville de Québec.
Oui.
Est-ce qu'il y a des nouveaux sports aussi qui vont arriver, non, cet automne, ou à part le mini-goalball? Ou...
Ben, il va y avoir le mini-goalball et on travaille pour le goalball récréatif parce que nous, on fait beaucoup de goalball compétitifs
oui.
parce que nous sommes comme... la fédération de goalball.
Bien sûr.
Mais souvent, les gens disent, ah, ben, c'est plate parce que moi, je voudrais jouer au goalball, mais je ne veux pas faire 15 heures d'entraînement par semaine. Là, je veux jouer pour le plaisir.
Bien sûr.
Fait que là, on essaie de trouver un endroit, un gymnase approprié pour ça. Là, fait que
d'accord.
ça s'en vient à la demande des
membres. Bon, ben écoutez, encore une fois, le temps va nous manquer. Ce que je voudrais qu'on rappelle, Nathalie, c'est que tous les gens qui sont intéressés par l'Association sportive des aveugles du Québec peuvent vous joindre, évidemment, par le net, à sportsaveugles, donc tout au pluriel, .qc.ca. C'est bien ça?
Très bien.
Et puis, c'est là aussi qu'ils peuvent s'inscrire pour les événements, comme celui du 9 septembre, pour les cours que vous allez donner.
Oui.
Que ce soit natation, mini-goalball, goalball, etc.
Oui.
D'accord, d'accord.
C'est bon. Ou ils peuvent nous rejoindre tout simplement par téléphone dans le 514-252-3178.
D'accord. Bien, merci beaucoup, Nathalie Chartrand. Bon automne à vous. On va avoir l'occasion de se reparler, évidemment, sur les ondes.
Merci beaucoup, Clotilde. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Aime l'été, la suite. Voilà un autre à qui j'avais vraiment très, très hâte de parler. C'est Julien Racicot, fondateur, directeur général de la Fondation Adapte-toi et qui, en ce moment même, effectue la traversée, le courage d'avancer. Êtes-vous sur la route en ce moment, Julien?
Bien là, je suis arrêté. J'ai traversé ce matin de Lévis à Québec.
OK.
Par le traversier. Après ça, on m'attendait au funiculaire. Je suis monté de la base ville, là, jusque dans le Vieux-Québec, puis là, on s'est arrêté pour manger une bouchée.
OK.
Puis après ça, je pars pour rejoindre la rue Laurier pour me rendre à la place de la Cité sur le boulevard Laurier, dans un centre commercial administré par Covidor, là, un de nos commanditaires.
D'accord.
Où on a une rencontre là, avec les gens, les citoyens, à 16 heures, où également, là, on a notre kiosque avec... le petit défi en fauteuil roulant qu'on propose aux gens.
Bon, alors, dites-moi, Québec, c'était votre arrivée, ça, non?
Non, pas du tout. Là.
Après, c'est Montréal?
Oui, exactement.
Ah, donc, OK.
Demain, je reprends la route direction Donnacona.
Direction Donnacona. Alors, comment ça se passe en ce moment? Je rappelle, quoi, vous êtes parti le 15 août, c'est bien ça, hein?
Oui, 15 août de Gaspé.
Oui.
Et là, ça fait déjà près de 2 semaines là, que je suis sur la route. Je dirais qu'en général, ça se déroule très bien.
Bon.
À l'exception que j'ai attrapé une petite rhume à cause des temps plus frais là, pendant
oui.
quelques jours. Je me suis fait attraper par la pluie un peu ici.
Oui. Alors, bon.
Mon rhume est sur la fin. Là.
Je me sens moins seul. Mais dites-moi, comment sinon, en dehors de ce petit rhume-là, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème avec votre fauteuil roulant? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? En tout cas, j'ai 10 000 questions à vous poser.
je dirais, au niveau moral, ça va très bien.
Oui.
Au niveau de l'accueil des gens également, je dirais que dans chaque ville, on a des gens qui sont là, qui nous encouragent, qui viennent courir, rouler avec moi.
D'accord.
On a un bel accueil. Dans la région de Gaspé, là, toute la péninsule de la Gaspésie, jusque même dans le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, tout ça, les gens s'arrêtaient sur la route, là, sur le bord de la 132,
oui.
pour m'encourager, pour faire des dons.
Ah, c'est bien.
C'est encourageant, là. C'est ce qui nous a donné une dose de courage, de force supplémentaire pour continuer notre route.
C'est fantastique.
C'est sûr qu'on a rencontré quelques petits défis, là, des imprévus avec le VR. Il y a eu différents bris. Le chauffe-eau n'a pas fonctionné pendant, je dirais, la première semaine du périple, fait qu'on avait l'eau froide.
Ça aide pas quand on est enrhumé, ça.
Non, pas du tout. Donc, ça réveille le matin.
Là, 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 là. Ça, je peux comprendre. Alors, on rappelle qu'en tout, c'est 1200 kilomètres que vous allez faire en 30 jours. Vous prévoyez à peu près arriver quand à Montréal?
On devrait être capable de réaliser la traversée en 25 jours.
OK.
Si tout va bien, je vais arriver à Montréal le 7 septembre.
D'accord.
Je suis autorisé à traverser le pont Jean-Cartier par la piste cyclable à partir de 10h30.
Uh-huh.
Rendu de l'autre côté, j'ai une escorte policière qui va m'attendre, qui va m'escorter. Probablement, là, ça reste... Il y a certains détails à confirmer.
Oui.
Mais probablement, je vais être escorté là, jusqu'à l'hôtel de ville où je devrais avoir une rencontre avec le maire de Montréal, Denis Coderre.
Bien.
Et demain, je reviens à Québec, là. Mais demain, j'ai une rencontre à 10h avec le maire Labombe au
oui.
jardin de la mairie.
Bon. Et puis alors aujourd'hui, parlez-moi un petit peu de cette programmation. Parce que partout où vous vous arrêtez, hein, vous nous l'avez dit, mais vous avez un kiosque. Et puis vous faites faire quelques défis aux gens qui sont sur leurs deux jambes. C'est bien ça?
Oui, exactement. Ce qu'on veut faire par ce petit défi-là, c'est qu'on veut, amener les gens un peu à vivre la réalité des gens en fauteuil roulant.
Oui.
Le défi qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Lorsqu'on se retrouve dans un milieu mésadapté, si on veut,
oui,
on
oui.
peut le nommer comme ça. Et donc, c'est un petit défi, là. C'est une rampe, une petite rampe à monter avec un plateau, une autre rampe à descendre. Il y a un petit terrain accidenté, des cônes à contourner. Et jusqu'à maintenant, là, à chaque arrêt, les gens ont toujours la même réaction. Ils sont surpris de voir... l'effort physique que ça demande.
Ah oui, hein?
Et comment ça peut être difficile de franchir, ne serait-ce qu'un tout petit seuil, là, une toute petite bosse. À quel point ça peut être compliqué.
À quel point, donc, oui. Eh bien, écoutez, donc, c'est une excellente chose, oui, d'avoir mis ça sur pied. Dites-moi, rappelez-nous, vous espérez accumuler combien d'argent?
On a pour ambition d'accumuler 375 000.
Oui.
Ça, c'est pour aider 25 personnes qui vont se retrouver un peu partout dans le Québec,
oui.
soit pour adapter leur domicile, pour les aider à bonifier l'adaptation de leur domicile qui est déjà existante,
oui.
ou pour leur offrir une enveloppe budgétaire pour se payer plus d'heures d'aide à domicile Et c'est toujours ça pour favoriser l'autonomie des gens en fauteuil roulant.
Et jusqu'à présent, vous en êtes où?
Là, on approche du 137 000 environ.
Oui.
Donc, on est déjà... on dépasse là, légèrement le tiers de notre objectif. Évidemment, on est encore loin du 375 000. Donc, évidemment, on invite les gens à faire des dons, toutes les contributions, peu importe le montant.
Oui, Monsieur le maire.
Ils vont atteindre l'objectif.
Monsieur le maire Labeaume aussi, ce serait bien qu'il vous fasse un petit chèque, Monsieur Coderre, tout le monde, au nom de la ville, ce serait drôlement sympathique, ça.
Tout à fait. D'autant plus que presque toutes les villes où on est arrêté jusqu'à maintenant, les maires nous ont remis des chèques, des donations de la ville. Donc, j'ose espérer que Québec va suivre la tendance.
Oui, moi je le pense, Monsieur Racicot. Si les gens veulent vous suivre, que ce soit pour voir l'itinéraire ou pour connaître les dates de votre passage, là vous m'avez dit que la prochaine étape c'est demain à Donnacona, mais si les gens veulent vous suivre, ils vous trouvent comment, Julien Racicot?
La meilleure façon, c'est via Facebook.
Okay.
Sur notre page Fondation Adapte-toi. Sinon, via notre site web au www.fondationadapte-toi avec un T à la fin, très important. Donc, www.fondationadapte-toi.org.
Oui.
Et là, en cliquant sur campagne, les gens vont pouvoir avoir accès à la campagne, la traversée, le courage d'avancer.
D'accord.
Et là, sur cette page-là, toute l'information se retrouve. Il y a même un lien où les gens peuvent nous suivre en direct via un GPS là, qui nous trace.
Oui, oui.
Donc, les gens peuvent nous voir, là, nous suivre à la trace sur la carte.
Ah, c'est très sympathique. Et puis, si vous êtes sur la route en même temps que notre ami Julien Racicot, on ne l'a pas reprécisé, hein, Julien, mais vous êtes paralysé des épaules aux orteils suite à une lésion de la moelle épinière, hein, c'est bien ça.
Exactement.
Si vous voulez accompagner Julien pendant quelques kilomètres, mais faites-le à pied en courant, avec des patins à roulettes, avec un vélo, avec une trottinette, avec ce que vous voulez, mais vous aimez ça, être entouré, hein, par des gens qui vous...
Ça m'encourage, le trajet est moins long, évidemment.
Bien sûr.
Plus on est, plus agréable.
Oui. Exactement. Alors, après Donnacona, vous serez où, Julien Racicot?
Si je ne me trompe pas, après Donnacona, ça va être Trois-Rivières.
Ah oui, déjà.
Et ou Champlain avant.
OK.
Je suis pas certain, là.
D'accord.
Et on s'en va direction Trois-Rivières.
Parfait. Ben, écoutez,
et
Julien.
Par la suite, ben, on poursuit.
Lâchez pas, hein, cette traversée, le courage d'avancer. Je rappelle que vous êtes parti de Gaspé le 15 août et que vous arriverez aux alentours du 9 septembre, à peu près, ou du 7 septembre à Montréal. Ne lâchez pas, on est avec vous ici à Canalet, mais je vous souhaite le plus grand des succès et de péter le score de 375 000 $ que vous espérez.
Un énorme merci.
De rien, Julien, on pense à vous. Au revoir.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci,
au revoir.
Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say, it's all right, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, the smile.
returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. Here comes the sun.
Oui, il y en a pour qui le soleil arrive, mais il y en a d'autres pour qui c'est plutôt la grande pénombre hein, qui arrive. Et nous allons en parler maintenant avec Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires, qui siège encore au comité sur les soins de fin de vie. Jean Lambert, donc, nous parlons encore une fois de ces soins de fin de vie. C'est une dernière aujourd'hui. Bonjour Jean, d'abord.
Oui, alors bonjour Clotilde. Hein? Donc c'est le dernier volet.
C'est le dernier volet.
Sur cette loi sur les soins de fin de vie, oui.
Et là, aujourd'hui, vous allez aborder pour nous les directives médicales anticipées. C'est
oui,
bien ça.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que c'est? Que sont-elles, ces
directives
médicales?
Alors, ce sont des
instructions
qu'une personne donne par écrit concernant des soins qu'on pourrait lui proposer à un moment où elle ne sera plus en position de donner un consentement. Donc, d'où le mot anticipé, donc directive médicale anticipée. Alors, cette personne dit, si à un moment donné, je ne suis pas en mesure de donner un consentement, voici ce que je veux.
OK.
Alors, ça peut être j'accepte ou je refuse un soin, par exemple.
D'accord.
Puisque la loi reconnaît qu'à toute personne, le droit de refuser des soins, même si ce refus entraîne la mort.
C'est pour cela, d'ailleurs, que finalement, ça a été inséré dans la loi sur les soins de fin de vie, ces directives médicales anticipées, c'est bien ça?
Oui, bien en fait, on les a insérées dans la loi parce que lorsque la commission Mourir dans la dignité a circulé au Québec pour entendre les gens avant que le projet de loi soit déposé, donc on recule il y a quelques années, ce qui a été porté à la connaissance de la commission par plusieurs intervenants, c'est que les médecins ne respectaient pas ce qu'on appelle les testaments de vie, testaments biologiques, les directives données dans un mandat en prévision d'inaptitude ou tout autre document. Et d'ailleurs, les médecins sont venus en commission pour dire « nous, on ne se sent pas liés ». Et c'était assez curieux parce que le Code civil reconnaît le droit à toute personne d'accepter ou de refuser un soin. Alors, c'était assez paradoxal. Donc, la commission, dans son rapport, a invité le législateur justement à intervenir et à officialiser ces directives en contraignant le corps médical à les respecter.
Alors, Jean Lambert, est-ce que tous les soins qui peuvent être administrés à une personne peuvent être couverts par ces directives?
Alors, encore une fois, c'est une recommandation de la commission. Parce que les médecins ont dit, si ces directives couvrent toute la gamme, toute la largeur de tous les soins qui peuvent être administrés à une personne, on a deux problèmes. Premièrement, il va risquer d'avoir des problèmes d'interprétation et aussi des gens seront appelés à donner un consentement anticipé sans avoir toute l'information.
Mm-hmm.
Alors, pour que ça ne parte pas dans toutes les directions, la commission a demandé aux législateurs de baliser et de restreindre sur certains soins stratégiques. Et effectivement, la loi a retenu trois situations. Une première situation de fin de vie avec atteinte neurodégénérative. Alors, c'est une personne qui souffre d'une maladie grave et incurable et qui la rend incapable de consentir à un moment donné. Et à l'intérieur de cette situation, il y a cinq soins où la personne dit « je consens ou je refuse » par anticipation. Mm-hmm. Par exemple, la réanimation cardio-respiratoire.
Okay,
est-ce que je refuse ou je consens?
Ouais.
La ventilation assistée, donc avec un appareil respiratoire assisté, est-ce que je veux ou non? Est-ce que je consens ou refuse de recevoir un traitement de dialyse?
Bien sûr.
Également, l'alimentation forcée ou artificielle, oui ou non, je veux ou je ne veux pas. Et même principe pour l'hydratation forcée ou artificielle. Alors, donc, on voit que ce sont des soins assez stratégiques qui ont une incidence directe sur la continuation de la vie. Seconde situation, atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives. Alors ici, on est en présence d'une personne qui est dans un état comateux ou végétatif. Mmh. Encore une fois, on dit oui ou non à la respiration, ventilation assistée, réanimation cardiovasculaire, traitement de dialyse, alimentation forcée ou hydratation forcée ou artificielle. Et troisième situation, c'est l'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives résultant d'un état de démence. On pense ici évidemment à l'Alzheimer. Encore une fois, les cinq situations, réanimation cardiovasculaire, ventilation assistée, dialyse, alimentation forcée et hydratation forcée ou artificielle. Donc, les directives médicales anticipées, c'est ça.
Mm-hmm.
Et pas plus.
Mm-hmm. Mais peut-être qu'on s'étonne, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qu'on s'étonne qu'on les ait limités à trois situations précises.
On revient encore au vœu que la commission Mourir dans la dignité avait exprimé à l'effet que ce soit balisé et restreint à certains soins stratégiques pour effectivement que les gens puissent obtenir, avant d'exprimer un consentement ou un refus, d'avoir l'information nécessaire, parce que la loi présume, lorsqu'une personne rédige ses directives médicales anticipées, elle présume qu'elle a toute l'information. Alors, en restreignant à ces trois situations et à ces cinq soins précis, on espère qu'au moins ça réduit la gamme ça permet aux gens d'avoir une information plus pointue.
Mmh, mmh. Concrètement, comment est-ce qu'on établit ces DMA, donc DMA pour directive médicale anticipée, je le dis pour les gens qui viendraient peut-être de se joindre à nous?
Alors, il y a deux façons, nous dit l'article 52 de la loi, c'est soit par acte notarié ou un écrit devant deux témoins sur un formulaire prescrit par le ministre. Alors, ça se passe comment? D'abord, si on va chez son notaire, c'est pas trop compliqué. Il a tout ce qu'il faut. Alors, donc, il explique. Il a le formulaire qui correspond au registre dont on parlera tantôt. Et donc, ça se passe sans trop de difficultés. La personne doit toutefois au préalable s'être informée minimalement sur les conséquences, par exemple, d'un refus. Parce
Bien
que c'est
sûr.
Surtout de refus, finalement, dont on parle en arrière-plan. Par contre, pour une personne qui veut le faire elle-même, alors elle communique à la régie de l'assurance maladie et demande, soit par téléphone ou en ligne, et demande de recevoir un formulaire. On lui fait un formulaire personnalisé à partir de son numéro d'assurance maladie. Elle complète, fait signer deux témoins qui n'ont pas besoin, par contre, de voir ce qu'il y a dans les directives. C'est juste qu'ils soient présents lors de la signature. Okay. Et à ce moment-là, le formulaire est soit conservé par la personne, on va voir un peu tantôt, ou expédié à la régie.
Donc ça, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne peut absolument pas rédiger ça sur un petit coin de papier.
Non.
Ça ne sera pas tenu en compte.
Non, absolument pas. Et d'ailleurs, la loi est formelle, ces directives ne peuvent même pas être mises dans un mandat en prévision de l'inaptitude, qui est quand même un document assez officiel. Donc, c'est très distinct, c'est précis, c'est ou l'acte notarié ou le formulaire du ministre.
Bon, maintenant, de quelle façon le corps médical peut-il avoir connaissance de ces DMA?
La moins bonne façon, c'est en conservant ses papiers personnels et en disant à quelqu'un de la famille, ben, s'il m'arrive quelque chose, allez là et vous allez trouver mes directives. Bon. Ça, c'est pas conseillé, mais c'est une façon. Mieux, évidemment, c'est de faire remise soit à son médecin, ou encore, lorsqu'on est admis dans un hôpital, dans un établissement, là, des remèdes pour qu'on les mette au dossier.
Directement.
Donc là, le médecin traitant pourra, s'il s'aperçoit que la personne perd ses facultés à un moment donné, ben, il pourra consulter le document au dossier.
Bien sûr.
Mieux, évidemment, c'est l'inscription au registre des directives médicales anticipées sous la responsabilité de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, une fois rédigé, soit le notaire ou soit la personne elle-même si elle a requis son formulaire, comme on mentionnait tantôt. Donc, le notaire sur demande de la personne ou la personne qui décide de l'expédier à la régie, à ce moment-là, les directives vont apparaître à l'écran et le médecin qui n'en trouve pas dans le dossier pourra consulter le dossier à partir du numéro d'assurance maladie.
D'accord.
Et voir que oui, effectivement, on en a.
Dites-moi, à supposer que ça m'arrive et que je fais tout ce qu'il faut, je remplis mon formulaire, il est maintenant enregistré, donc dans le fameux registre et tout, et je décide de changer d'avis. Est-ce que je peux révoquer? Si oui, comment je peux faire ça?
Oui, on pourra aussi parler de modification, mais si on est précis sur la révocation, alors si votre formulaire a été envoyé à la régie, il y a un formulaire que vous devez obtenir de la régie, formulaire de révocation précis, que vous complétez, encore toujours en présence de témoins, et expédiez à la régie. Cependant, la loi prévoit qu'en cas d'urgence, une personne peut révoquer verbalement ses directives. Donc, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes dans un état difficile, vous vous rappelez que vous avez fait des directives médicales anticipées, mais vous avez changé d'idée. Alors, vous pouvez dire, je les révoque, prenez note que je les révoque. Alors, donc, ça aussi, c'est une révocation qui est valable.
D'accord. Modifier,
parce que sans les révoquer,
d'accord,
on peut vouloir les modifier.
D'accord.
Alors, il y a deux façons. La meilleure, évidemment, c'est d'en faire d'autres. La loi dit d'ailleurs, on doit refaire des nouvelles directives pour modifier les anciennes. Si on a porté les premières au registre, bien évidemment, il est tout à fait indiqué d'expédier à la régie pour son registre les directives modifiées. Mais encore une fois, on peut toujours, en cas d'urgence, les modifier verbalement. Alors, évidemment, des directives anticipées, c'est dans le cas où on serait en situation d'inaptitude à consentir. Mais si je suis encore capable de consentir, je peux certainement dire, écoutez, vous ignorez les directives, un peu comme on parlait pour la révocation.
D'accord.
Voici les nouvelles que je veux faire et là, je les écris.
Parfait. Mais écoutez, Jean, est-ce qu'on a fait le tour?
Il y a beaucoup de détails dans lesquels je pense que c'était peut-être pas... Ça aurait alourdi la présentation. Mais je pense que l'essentiel, on l'a couvert. Je pense que les gens peuvent se tirer bien d'affaires et comprendre mieux cette loi.
Eh bien, nous vous en remercions beaucoup, Jean Lambert, et peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, si vous avez envie...
On aura peut-être un autre sujet.
Si vous avez envie, c'est ça. Si vous passez devant le studio et vous voyez de la lumière, ben, ne vous gênez surtout pas pour rentrer.
On cogne à la porte.
On cogne à la porte.
On n'a pas dit au micro.
Jean Lambert, merci infiniment. Bonne fin de journée.
C'était mon plaisir.
Et puis quelques titres en rafale avant de refermer ce magazine. Aujourd'hui, c'est un message que nous envoie l'Institut Nazareth et Louis Braille. À l'issue d'une phase de test qui a duré quelques mois, la nouvelle itération de notre lecteur d'écran favori pour Windows est désormais disponible au téléchargement à l'occasion de la rentrée 2017. Alors, parmi les changements introduits dans cette mise à jour, on peut notamment mentionner la prise en charge native des synthèses vocales mobiles de Windows 10. Entre parenthèses, Paul et Julie, je suis convaincue que nos amis non-voyants savent très bien de quelle voix il s'agit, animé par le moteur One Core Voices de Microsoft. Le support de la saisie en braille abrégé depuis une plage braille. Également la prise en charge du rendu mathématique via le module MATLM, oui, au sein de Google Chrome, la possibilité de recourir à la fonction de reconnaissance optique de caractère intégré nativement à Windows 10 via le raccourci suivant NVDA+R. Alors, pour profiter de cette mise à jour, deux solutions. Soit vous passez par le menu NVDA+N, soit vous recherchez, et puis à ce moment-là, vous recherchez une mise à jour, ou encore, vous pouvez télécharger manuellement cette mise à jour depuis le site de l'éditeur. J'espère que tout cela a été assez clair. Pour moi, c'est un petit peu confus, mais je suis convaincu que certains aussi d'entre vous auront tout à fait compris le message. Voilà, ainsi s'achève l'émission du 29 août 2017. C'était Clotilde Seil qui l'animait avec grand plaisir pour vous. Merci à toute mon équipe et à tous mes collaborateurs et invités du jour. Je vous donne rendez-vous demain matin à midi. Salut.